Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec le chanteur Sébastien Tellier pour la sortie de son nouvel album Domesticated. Il y aura un portrait inattendu, le retour dressé par Hélène Manarino qui est dans ce studio. Et puis dans les indispensables, une série sur deux mères que tout oppose et une sélection de BD. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel.
Welcome back.
Merci, je suis ravie d'être face à vous.
Ça s'est bien passé ce confinement?
Très bien.
Disons que vous étiez sous une lampe à bronze.
C'est ça.
Hier, Hélène, vous nous annonciez la fermeture d'un cinéma sur les Champs-Élysées et ce matin, vous nous parlez d'une ouverture.
Oui Philippe, et vous allez voir que c'est lié. Un cinéma MK2 ouvrira donc sur les Champs-Élysées en 2024, pour les JO donc. Un cinéma de 9 salles. Il fera partie d'un grand multiplex, commerce, hôtel et donc MK2. Il sera situé à la place de l'UGC Georges V. Et puis on va rester dans cette thématique cinéma. Je vous en parlais hier. Cannes a dévoilé sa sélection officielle. 56 films ont été choisis sur donc 2067. Dans cette liste, on retrouve François Ozon, Ma Youen, Laurent Lafitte, Bruno Podalydès, Wes Anderson ou encore Steve McQueen.
Il y a un truc à creuser parce qu'hier, je crois me souvenir que l'UGC Georges V devait céder sa place à un hôtel.
Il y a un hôtel et il y a plein de choses. C'est un grand multiplex.
Formidable. On va partir du côté du Louvre, Hélène, le musée qui prépare par sa réouverture.
Elle est prévue le 6 juillet prochain, en reprogrammant notamment ses expositions. Alors, il faudra réserver son créneau de visite en ligne. En tout cas, c'est fortement recommandé. La réservation ouvrira le 15 juin. Les modalités pratiques avec toutes les mesures sanitaires seront très bientôt communiquées. Cet été, les visiteurs profiteront donc de l'exposition Figures d'artistes. La saison consacrée à la Renaissance reprendra cet automne après l'exposition phare Léonard de Vinci, évidemment. En octobre, ouvrira une autre exposition consacrée au génie de la Renaissance. Depuis la fermeture du Louvre, le 13 mars dernier, 450 employés sont en télétravail. Les chantiers de restauration architecturaux reprennent peu à peu. Concernant les billets que les visiteurs avaient achetés avant la fermeture du Louvre, 70 000 ont déjà été remboursés, soit 90%.
L'Opéra de Vienne annonce à son tour une réouverture.
L'Opéra reprendra ses représentations à partir de lundi prochain avec un public réduit, 100 spectateurs par soir pour une salle de 1709 places.
Je vous interromps, il y aura moins de spectateurs que de gens qui travaillent là-bas, parce qu'un opéra à Vienne, c'est quelque chose.
Et oui, 14 concerts sont prévus jusqu'à la fin juin. Pas d'importantes productions, des récitals surtout, hein, par exemple.
Bah voilà.
Tout reprendra normalement à partir de septembre. L'opéra de Vienne programme habituellement 350 représentations par saison pour 600 000 spectateurs. Le prix des billets pour la réouverture pourra varier entre 36 et 100 euros.
Un portrait de l'actrice Jennifer Aniston mise aux enchères.
Oui, pour lutter contre le Covid-19, il s'agit d'un portrait d'elle nu. Date de 1995. L'actrice est assise, jambes croisées. Le cliché est estimé entre 5 000 et 7 000 dollars. Et là, il est déjà 6 300 dollars. La vente se passe sur le site de Christie's. Elle se conclura dans 8 jours. La totalité des recettes de cette vente ira à une organisation qui fournit gratuitement des tests de dépistage du coronavirus et des soins dans tout le pays aux personnes les plus défavorisées.
Et lui, il a déjà posé nu, mais c'était pas en vente aux enchères. Non. Jean-Marie Bigard, qui prépare, dites-vous, un spectacle sur le confinement,
oui,
c'est ça?
Je vous en avais parlé, en plus d'être intéressé par une candidature à la présidentielle en 2022. Jean-Marie Bigard a lancé donc cette idée d'un spectacle en ligne sur le confinement en direct de l'Apollo Théâtre à Paris. Le prix est de 10 euros et ça se passera le 20 juin prochain. Alors sachez juste que déjà 2000 billets ont été vendus en l'espace d'une semaine.
Merci beaucoup Hélène pour ce journal de la culture. Vous partez pas,
mais
on
non,
vous retrouve tout à l'heure.
Je reste
face à Sébastien Tellier.
Oui, à tout de suite.
Musique dans Culture Média avec le groupe Mickey 3D. Franck Hennez, le patron du magazine SoFoot, était notre invité il y a quelques minutes. Et bien, on va lui dédicacer ce titre, hommage au joueur de foot stéphanois Johnny Rep. C'est Mickey 3D qu'on écoute tout de suite sur Europe 1. Excellente matinée à tous dans Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et je disais, il est avec nous dans ce studio, on accueille Sébastien Tellier, Philippe.
Et on ne peut pas le rater, je vous recommande de regarder l'image sur europe1.fr, je vais arriver à le dire, je suis ému. Bonjour Sébastien Tellier.
Bonjour.
Vous êtes notre premier invité du déconfinement qui a des lunettes et une casquette. Un enfant terrible de la techno à la française, on vous doit un standard international, la ritournelle. Et on se souvient également de vous à l'Eurovision quand vous aviez débarqué en voiturette de golf. Là c'est un nouvel album, sur la pochette, vous êtes entouré de trois gants pas des gants de ménage. L'album s'appelle Domesticated. Ah, je suis content que ça s'arrête. Et vous dites que c'est un titre trouvé par Sofia Coppola. Coppola, ça veut dire quoi, Domesticated?
Ça veut dire domestiqué. Ça veut dire que Pour exister, pour vivre, on est obligé de faire des efforts, c'est ouais. ça, c'est un album sur la condition humaine, mais c'est aussi un album sur ma vie, parce que j'étais un chien fou, comme je le dis bien souvent,
ouais.
et je me suis marié, j'ai eu deux enfants, et là, je me suis pris, je veux dire, comme un raz-de-marée de tâches domestiques en pleine face, les couches, les packs de lait, tout ce qu'on connaît, tous les gens qui ont des enfants connaissent ça, c'est, tout, ouais. c'est un truc de fou.
Ouais.
Et voilà, et j'avais pas le titre, donc je vois Sophia en soirée, on discute, elle me dit « tu fais quoi en ce moment ?» Je viens de terminer mon album, elle me dit « mais ça parle de quoi cette fois-ci » Donc je lui raconte tout ça, et puis elle me dit « bah domesticated ». Elle dit « c'est parfait, parce qu'à la fois tu parles de la condition humaine et de ta propre situation ». Et j'étais « ah bah ouais, c'est génial, Sophia a réussi à trouver en un mot tout ce que j'essaie de dire en tout un disque ».
Et pour vous dire, le niveau de Sébastien Tellier, c'est un type qui est capable de parler de packs de lait en soirée avec Sofia Coppola. Il y a un clip qui est sorti, on ne peut pas vous montrer les images, on écoute le son. Cette musique comme ça, vaporeuse, éthérée. L'image qu'on a, c'est vous êtes au sauna, à la cool. Sauf que dans le clip, on vous voit en train de faire la vaisselle ou alors danser au milieu de gants Mappa sur les vieux. Il y a également un aspirateur. Pourquoi vous avez choisi également cet univers pour le clip ?
Parce que je trouve ça beau, au final, à force d'être enfermé à la maison, de m'occuper de tout ça, le liquide vaisselle, la vaisselle, les oreillers, les machins. À un moment, j'ai dû y trouver une forme de beauté. Et
ouais.
Il faut bien essayer de se projeter dans quelque chose. Donc forcément, quand on sort, alors il y a le champagne, il y a les taxis de luxe,
ouais.
business class, ouais, on est inspiré, évidemment. Mais après, à la maison, c'est pas la même chose. Mais pourtant, il fallait que je refasse de la musique, il fallait que je parle de quelque chose. Et donc, finalement, je me suis forcé à trouver tout ça beau et ça a fini par marcher. Mais c'est presque une leçon de vie que j'ai eue, c'est-à-dire, faut vraiment chercher la beauté partout. Quoi.
Vous avez dit des plaisirs immédiats comme se nourrir une assiette, remettre un coussin en place, voir les chaussures bien rangées. Sauf que, quand vous avez créé cet album, cet univers, c'était avant le confinement. Mais une fois que vous y avez été obligé, c'était plus la même limonade, si j'ose dire.
On peut dire ça, c'est vrai. Bon, j'ai eu de la chance d'une certaine manière parce que justement, j'ai fait un album sur les tâches domestiques et justement, il y a eu le coronavirus. Ça a fait un effet loupe sur mon
ouais.
sujet parce que tout le monde en parle et tout maintenant, les tâches domestiques. On voit des gants en plastique partout et tout. Et donc, d'une certaine façon, j'ai eu de la chance. Mais à la fois, je veux dire, c'est pas jamais, c'est ça que je voudrais dire surtout, c'est que jamais je me serais permis, ah tiens, il y a le coronavirus,
ouais.
et je sors sur le truc, paf, vite fait, je fais un petit album.
Alors là, je peux vous dire, pour écouter l'album très attentivement, on sent que c'est pas enregistré vite fait, il y a un énorme travail sur la composition, sur le son, et également sur votre voix, on l'a entendu un petit peu, vous utilisez votre voix comme un instrument, exemple, c'est sur le titre « Hazy Feelings ». C'est à la fois du son et à la fois de la voix. C'est quoi ? Il y a combien d'effets sur cette voix ?
Il y en a énormément parce que d'habitude, ce qu'on utilise pour avoir ce genre d'effet, c'est ce qu'on appelle l'autotune. C'est
ouais.
ce qu'utilisent tous les mecs, du R&B, du hip-hop et tout, évidemment. Mais seulement, moi, je voulais faire un truc vraiment, vraiment très, très raffiné. Et donc, autotune, c'était trop grossier. Je veux dire, voilà, c'est pas précis. Donc, j'ai dû utiliser d'autres trucs. Donc, j'ai bien fouillé et tout. Et finalement, j'ai fini par associer plusieurs types d'effets. Il y en a un qui s'appelle polymorphe. Il y en a un autre. C'est un octaveur avec un petit peu d'autotune et un petit peu de Melodyne. Donc, c'est plein d'effets comme ça, les uns sur les autres. Mais c'est vrai que j'enregistrais la voix en premier pour cet album. Donc, j'enregistrais ma voix.
Ouais.
Et après, j'ai fait toute la musique, toute la production de la musique autour de la voix. Donc, la voix est vraiment centrale dans ce disque.
Et vous ne l'avez pas fait tout seul, cet album, mais avec un certain Nicolas Chatin, alias NKF. J'en parle, c'est pas n'importe qui. C'est l'homme, je m'attendais absolument pas à ça, c'est l'homme qui est derrière le son de PNL. Pourquoi ce choix ? Comment s'est fait la rencontre ?
Déjà parce que j'adore PNL, j'ai toujours adoré comment ça sonnait. J'aime bien comment ils choisissent leur boucle, et puis surtout, je trouve que ça sonne hyper ample. Et aussi, c'est planant. Ouais. Donc finalement, ça fait quand même plein de points communs avec moi, cette espèce de musique assez langoureuse, on va dire, mais en même temps, avec une soif de grandeur, on va dire. Et tout ça, ça me plaisait bien. Donc après, juste, on s'est renseigné, bah tiens, qui c'est qui fait le son de PNL? On s'est dit, ah bah tiens, c'est NKF. Et juste, on l'a appelé, et puis on a bossé avec lui. Et c'était merveilleux, parce que c'est un mixeur qui se contente pas de mixer, pardon. Il prend des bouts, il les met ailleurs, il coupe le début, il rallonge la fin, enfin il fait des trucs. Il prend plein de décisions et c'est vraiment magique parce que quand le morceau il passe dans ses mains, quand il ressort, c'est plus du tout le même, quoi. C'est chatoyant, il y a des montagnes, il y a des rivières, voilà.
On va rester sur cette géographie. Sébastien Tellier reste avec nous et on va entendre votre portrait inattendu. C'est le retour en direct avec Hélène Manarino.
Exactement, portrait grâce auquel on va tout savoir de vous, Sébastien Tellier, et c'est dans un instant sur Europe 1.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Sébastien Tellier, vous ne connaissez pas Hélène Manarino?
Pas encore.
Hélène Manarino, vous ne connaissiez pas Sébastien Tellier?
Si.
Mais vous l'avez déjà vu en vrai?
Non, jamais, c'est la première fois.
Je suis enchantée de cette rencontre. C'est à vous, Hélène.
Bonjour, Sébastien Tellier.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. J'espère, comme vous dites si bien, que vous allez tomber de l'armoire. Et pour ça, je vais m'en arranger. Avant tout. Ce sont vos expressions. Avant tout, il faut que vous vous sentiez comme un véritable poisson dans l'eau. Ça tombe bien, c'est ce bruit qui vous apaise. Alors commençons par ça. Que ce soit à Cannes, Calais ou au lac de Garde, maintenant qu'on y est presque, on y va. Sébastien Tellier, vous pilotez votre vie depuis toujours comme bon vous semble. Véritable accro aux voitures, aux émissions de relooking de voitures par exemple. Ça a remplacé votre passion Colombo. Vous aimez aussi regarder les voitures en vente sur la centrale. Alors même si vous avez toujours choisi l'autoroute du kiff, comme on dit, cela vous a parfois joué des tours, comme ce jour où vos freins sont tombés en panne en descendant d'une montagne en Italie. Vous avez dû faire 3 fois le tour d'un rond-point car votre voiture ne pouvait plus s'arrêter sous une tempête assez impressionnante et vous avez dû passer la nuit dans un refuge allemand.
C'est vrai.
Il y a des refuges allemands en Italie.
Non, non, mais c'est vrai, je sais pas, Europe Assistant, je sais pas quoi, je suis souvent en Allemagne.
Fan des voitures dernier cri, vous avez aussi été coincé sur une aire d'autoroute avec le coffre ouvert qui ne voulait plus se fermer manuellement. Alors finalement, rien ne vaut votre première voiture toute noire achetée à votre voisine avec d'énormes mailles à l'abeille peintes à la main. Vous étiez très fier d'ailleurs de venir chercher votre petite sœur à l'école à bord de ce qui représentait votre liberté. Alors rien d'étonnant que l'une de vos chansons préférées, Sébastien Tellier, s'intitule Je pars.
Le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires, Cuba.
Je pars de Nicolas Perrac, libre, vous l'avez toujours été. Partons, Sébastien Tellier, prenons la route de votre enfance. Votre avenir était presque tout tracé. À l'âge de 9 ans, vous avez d'ailleurs déclaré à votre maman « Ne comptez pas sur moi pour être un jour en costume ». Le message était reçu et il ne fallait absolument pas vous stopper, notamment du côté de la musique, passion transmise grâce à votre papa, grand guitariste, avec qui vous aimiez chanter cette chanson.
Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
Ça vous émeut, Sébastien Tellier?
Ouais, c'est vrai, j'ai fait chialer en plus, pas pour déconner.
Ouais, pourquoi?
Ouais, je jouais souvent ça avec mon père, il est encore en vie et tout, je pourrais le refaire, hein, mais ouais, c'était vraiment des grands moments et tout. Je découvrais la musique, c'était tout, c'était relation père-fils, la découverte de la musique. Aussi ces accords si profonds, si beaux, moi je suis ému.
Hélène.
Michel Legrand, donc, il est moulin de mon cœur. Et puis il y avait ça aussi.
Non.
Et oui, un roman d'amitié. Alors. Sébastien Tellier, tout était au vert pour vous lancer dans la musique, le conservatoire déjà dans le Val d'Oise et cette chorale de fin d'année où la consigne était chemise blanche, pantalon noir. Vous n'avez rien précisé à vos parents, vous êtes donc arrivé en survêtement rouge.
Non.
Et vous étiez le seul.
Ouais,
ils ont dit quoi?
Bah, on m'a placé au centre comme si j'étais la star de la chorale. Si ouais, il y a des différences, lui, il doit chanter mieux que les autres.
Pas question pour vous de suivre les codes. À l'âge de 9 ans, vous vous êtes créé un mot d'excuse sur un post-it violet que vous avez donné à votre instituteur en précisant que toute la semaine suivante, eh bien, vous seriez malade.
Non.
C'était pour jouer aux jeux vidéo chez un ami de votre quartier. Bravo.
C'est drôle.
Ouais, c'est vrai, le coup de prévenir de la maladie.
Mais c'est génial. Et c'est passé ?
Ouais, c'est passé, mais après c'est pas passé finalement parce que il y a eu une pile de mots et une fois qu'il y en a eu 50, ils se sont aperçus qu'il y a un problème.
Une passion qui reste aujourd'hui puisque vous passez votre temps à jouer à Fortnite avec votre fils entre deux histoires que vous lui inventez chaque soir de cacahuètes et cacahuètes. Alors, ce sont les personnages inventés.
Ouais.
Solitaire, parfois vous ne reculez devant rien. Vous avez été capable, par exemple, de dessiner des petits dessins en bas de chaque page de la Bible en pensionnat. Et quand les autres tournaient les pages très rapidement, ça faisait donc un grand dessin.
Et ça faisait quoi comme aventure ?
Rien de spécial. C'était surtout, je dois bien le dire, c'est terrible, mais en catéchisme, j'étais obsédé par les bites. Donc il y avait des bites partout. Je mettais des bites partout sur les cahiers, sur les livres, tout.
Et quand on tourne, elle bouge. Pardon,
ouais, voilà, hein. Ça faisait une petite bite qui se déplaçait. Bon, enfin, j'avais 14 ans.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc je reprends après cette anecdote.
Ouais. Oui,
super.
Bien sûr.
Sébastien.
Non, on s'arrête là. Merci, Madame Ballerino.
La chute après la chute, je peux rien dire. Sébastien Tellier, une vie à toute vitesse qui parfois vous fait oublier certaines choses. On y vient, vous perdez absolument tout. Et ce n'est jamais bien loin, pourtant, comme lors du Festival de la mode hier. Tout le monde vous attendait dans le bus. Impossible de retrouver votre carte bleue. Vous avez fait descendre toutes les valises. Vous avez fouillé tout le bus pour retrouver cette carte dans votre poche. Mais finalement, la route que vous préférez prendre, c'est la route de la cuisine, inégalable sur les œufs au plat déglacés au vin blanc, c'est votre recette, sur le chili con carne, sur les pâtes bolo. Vous êtes récemment mis au poisson, que vous cachiez souvent dans votre poche à la cantine pour ne pas le manger.
C'est dégueulasse.
Plaisir simple.
Attends, je veux savoir comment ça se passait après, vous rentriez chez vous avec le poisson dans la poche ?
Non, je le foutais à la poubelle juste après.
Ah bon ?
Moi, j'étais toujours dans des écoles très catho et on était obligé de finir nos assiettes et moi je prenais ça comme une torture, donc je peux foutre la bouffe dans les poches. Quoi.
Plaisir simple, ce qui peut vous stopper dans ce que vous faites, ce sont les frites et le fromage. D'ailleurs, votre petite sœur vous en coupait des morceaux pendant vos parties de jeux vidéo. Mais parfois, Sébastien Tellier, vous avez quand même envie de faire marche arrière. Le côté matériel vous angoisse. Dans votre premier appartement, il n'y avait qu'un canapé. Vous ne supportez pas tout ce qui touche à la santé, vous faites une radio des poumons pour un rhume, et vous êtes capable d'être totalement angoissé lorsque votre fils va chez le dentiste pour une carie, comme hier, par exemple. C'est précis.
Ouais, c'est vrai que franchement, dans l'escalier pour monter chez le dentiste, je suais, quoi. J'étais en sueur. Je me disais, putain, pourvu qu'il ait pas une carie, c'est vrai que je suis un peu, j'ai peur, quoi.
Et alors, attendez, tout le monde attend, il a une carie ou pas ?
Non.
Hélène.
Généreux et sans limite, pour les 30 ans de votre femme, vous lui avez fait 30 cadeaux. Alors pour l'emballage, vous avez suivi des tutos. Faire plaisir aux autres, c'est finalement l'essence même de votre vie. Vous invitez tout le monde, Sébastien Tellier, à monter dans cette grande locomotive que vous pilotez avec un sens unique et un sens des priorités. Finalement, continuons de voyager avec Tellier.
Merci beaucoup Hélène. Réaction ?
C'était très beau, franchement. Hein ? J'ai ri, j'ai failli pleurer. Enfin, super, quoi.
Bah, je vous avais prévenu. Voilà. Ouais. Et puis, vraiment, bravo pour les Bibles. Vous restez avec nous. Hein. Merci, Hélène. À demain.
À demain.
À suivre nos indispensables avec un nouveau conseil série sur Amazon Prime. Les conseils BD de notre spécialiste Mathieu Charrier. Et le tout avec notre invité Sébastien Tellier. On reste sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Nos indispensables, on va parler cinéma dans un instant avec Mathieu Charrier, avec notre invité Sébastien Tellier ce matin.
Mathieu, bonjour.
Bonjour à tous.
BD aujourd'hui avec les nouveautés BD, qui commencent à arriver. Mais non, habituellement il parle de cinéma, Mathieu Charrier.
Oui, je le savais, parce que c'était BD.
Voilà, mais vous savez, vous avez dit autre chose.
Effectivement.
Bien fait. C'est le principe de l'émission avec des nouveautés qui arrivent dans les rayons des librairies. Et votre premier conseil du jour s'appelle Podome.
Oui, formidable BD signé Hubert au scénario, Zanzim au dessin. Alors on est dans l'Italie de la Renaissance. Bianca doit épouser Giovanni, qu'elle ne connaît pas évidemment, c'est un mariage arrangé. Giovanni il est riche, c'est un marchand dont elle ignore tout. Mais à l'occasion d'un week-end chez sa marraine, Bianca va découvrir le secret des femmes de sa famille. Figurez-vous qu'elles ont une peau d'homme, c'est une sorte de combinaison de plongée intégrale, vous voyez, qui s'appelle Lorenzo,
ouais,
et qui leur permet de se glisser dans la peau d'un homme, de se transformer en homme, ce que va faire Bianca. Et elle va ainsi découvrir le pays de ces messieurs, notamment de Giovanni, donc, dans son habitat naturel, pour reprendre une expression animalière. Elle va découvrir la vraie sexualité de Giovanni, déviante, comme l'on disait à l'époque, au scénario donc Hubert, qui a eu envie d'écrire cette histoire au moment de la manif pour tous.
il y avait tout ce retour en fait de la face la moins glorieuse du catholicisme, dans laquelle j'ai baigné puisque je viens d'une famille catholique assez traditionnelle du fin fond de la Bretagne. Tout ça effectivement a fait remonter des émotions très violentes, et il y a eu ce moment de dire c'est pas possible, il faut que je règle mes comptes. Et en fait j'ai voulu à l'origine faire une espèce de pamphlet très très violent qui se serait appelé Débaptisez-moi, qui lit un pamphlet, les personnes qui pensent déjà la même chose. Donc il y a eu tout d'un coup cette envie de dépasser ça et de faire quelque chose de beaucoup plus méchant, c'est-à-dire une comédie.
Eh oui, Carl Henry, on pense à l'univers de Billy Wilder, on s'interroge sur notre rapport au genre, sur la question du désir des femmes, des hommes, sur la morale. Alors depuis cette interview au dernier festival Angoulême, Hubert est décédé, c'est un grand scénariste de bande dessinée qui laisse donc cet ultime message, et vraiment, lisez ce podium, c'est publié chez Glénat et c'est magnifique.
Autre conseil Mathieu, cette fois c'est une BD de science-fiction.
Ouais, le dernier Atlas, tome 2, qui est une uchronie palpitante. Dans le premier tome, qui se déroule de nos jours, mais qui nous renvoie aux années 60, le général de Gaulle, figurez-vous, avait alors lancé la construction de robots nucléaires géants pour maintenir l'ordre en Algérie. Ouais. 50 ans plus tard, il n'en reste qu'un seul de ces robots qui croupit en Inde. Il s'appelle le George Sand. Une équipe de pieds nickelés va alors partir à sa recherche. Et dans le tome 2, ils le trouvent, ce robot, et avec lui, ils vont devoir affronter une menace extraterrestre. Mais attention, tout ça reste très crédible. Écoutez Fabien Vellman, l'un des co-scénaristes.
Ce qu'on voulait, c'était éviter ce que j'appelle le syndrome Independence Day, c'est-à-dire ce genre de film catastrophe où des aliens débarquent sur Terre et où soudain on perd toute notion de crédibilité, où par exemple le président des États-Unis est capable de piloter un jet et d'aller se défendre lui tout seul. Moi, ça m'agace prodigieusement. Mais est-ce qu'on est obligé d'abdiquer l'intelligence pour ça? Et en particulier d'imaginer ce qui se passerait si une menace extraterrestre débarquait en Algérie d'un point de vue géopolitique. Par exemple, les puits de pétrole du sud algérien aura un impact sur l'économie française. Mais on essaie de pousser le lecteur à une réflexion sur le monde actuel, y compris sur la question des migrations, puisque le héros, le anti-héros, Ismaël Taïeb, est un enfant issu de l'immigration qui se débat avec justement son statut d'enfant immigré en France. C'est le défi qu'on a voulu se fixer.
Voilà, défi réussi. Le dernier Atlas est non seulement une grande aventure, mais c'est intelligent, c'est ancré dans l'actualité. Il y a 5 personnes qui travaillent sur la BD, 2 scénaristes, 3 dessinateurs, pour aller assez vite. Il y a donc le tome 2 qui vient de sortir avant l'ultime aventure, puisque c'est un triptyque, donc plongé dans le dernier Atlas, tome 1 et puis 2, c'est publié chez Dupuis.
Et puis enfin, ultime conseil bande dessinée du jour, c'est l'Odyssée d'Hakim.
Oui, tome 3 cette fois. Alors l'auteur Fabien Toulmé suit depuis plusieurs années maintenant Hakim, qui est un jeune Syrien qui a dû fuir son pays. Il est en France, il lui raconte son aventure, entre guillemets, et Fabien Toulmé la met en dessin. Alors dans le tome 2, on rencontrait la femme et le bébé d'Hakim, et c'est avec ce même bébé qu'Hakim va devoir, dans ce tome 3, passer de la Macédoine à la France. Alors les ressorts sont toujours un petit peu les mêmes, il se retrouve dans un camp, il est libérés, ils repartent, ils se font de nouveau arrêter, ils sont escortés par la police jusqu'à la frontière d'un autre pays, avec à chaque fois tout ce business autour de la misère. Écoutez Fabien Toulmé.
Comme souvent dans des situations dramatiques, il y a des gens en fait qui essaient d'en tirer parti. Donc moi, un des trucs qui m'a marqué, c'est quand il me raconte le moment où il marche sur un chemin en rase campagne. En fait, le long du chemin, il y a des vendeurs, un peu comme des vendeurs ambulants, en fait, qui sont là avec des sacs de bananes, des sacs de biscuits et qui monnaient ça 3-4 fois le prix. On passe un jour, la frontière est ouverte, éventuellement une semaine après, parce que l'effet du décès du petit Aylan est passé, la frontière se referme. Il y a une vidéo qui circule sur les conditions dans les camps de réfugiés, à ce moment-là tout devient un peu plus doux. Enfin, en fait, on se rend compte que tout est hyper fluctuant.
Voilà, et ce troisième tome est donc le dernier. À la toute fin, on apprend qu'Hakim, sa femme, ses enfants sont toujours en France, mais qui galèrent pas mal. Voilà,
attendez, vous racontez la toute fin.
Mais non, mais c'est un carnet de toute façon.
Le gars.
C'est vraiment l'histoire de l'immigration à l'échelle humaine, cette BD. Donc c'est une BD de reportage, il faut la lire. Ça s'appelle L'Odyssée d'Hakim. Là, c'est le tome 3 qui vient de sortir. Et puis il y a les deux autres, évidemment. C'est publié chez Delcourt.
Voilà, et maintenant, comme ça, on connaît la fin. Merci beaucoup, Mathieu Charrier.
On la connaît forcément, puisque si vous m'avez bien écouté,
oui, je vous dis que écouté, c'était pour faire une vague. C'était pour faire une petite vague.
Aujourd'hui en France, et qu'on revit tout le voyage.
C'était pour voir si vous suiviez mes questions. Vous êtes fan de BD ou pas du tout, Sébastien Tellier?
Pas vraiment, non, c'est pas mon truc, mais j'y connais rien, je sais même pas ce qui sort, rien, je sais même pas que ça existe encore.
Vous avez...
Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, j'en lis jamais.
Tiens, en parlant de ce qui existe encore, il y avait une tournée des festivals qui était prévue, ça va reprendre quand? Est-ce que vous avez des dates? Est-ce que vous pouvez donner des choses ou pas du tout?
Bah, moi j'espère que ça reprendra vite, mais j'ai pas de date, je me suis jamais vraiment renseigné, j'ai vu que des dates avaient changé, mais comme il y a j'ai toujours eu la flemme d'ouvrir ce mail parce que c'est des listes. Ouais. Mais bon,
attendez,
c'est pas
très grave. C'est quand même extraordinaire. Vous faites des concerts de promo pour votre album. Vous savez même pas le jour où vous allez
non,
jouer.
Je sais que je dois répéter. Ça, c'est le plus important. Ah. Mais une fois que je suis prêt, finalement, je peux faire un concert n'importe quand, du moment ouais. qu'on est tous prêts, toute l'équipe et tout. Après, ce qui me gêne, c'est pour les gens qui ont acheté des billets. Par exemple, moi, je devais faire une cigale, je sais plus, le 11 mai. Et puis, finalement, ça a été reporté. Donc, il y a des gens qui pourront pas venir à la date reportée.
porter.
Et vous savez quand ça va être ou pas?
C'est le 29, ça c'est le 21 octobre. Voilà, ouais, ça je m'en souviens.
À la Cigale, vous allez faire sur scène Stuck in Summer Love?
Oh que oui.
Vous savez pourquoi je vous en parle?
Non.
Parce qu'on va l'entendre.
Oui, on l'écoute tout de suite. Nouvel album Domesticated pour notre invité Sébastien Tellier. Et on écoute le sensuel Stuck in a Summer Love tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Sébastien Tellier qui est notre invité dans Culture Média ce matin. Et on continue, Philippe, à faire le tour de nos indispensables avec Margot Barallon.
Sébastien Tellier, vous êtes fan de séries?
J'adore les séries.
Ah bah justement, Margot, aujourd'hui, vous nous conseillez d'aller regarder une mini-série. Cette fois, elle est sur Amazon Prime Video.
Oui, ça s'appelle Little Fires Everywhere. C'est en fait l'adaptation d'un roman qui a été traduit en français par La Saison des Feux. Alors l'histoire se passe à la fin des années 90. Nous sommes dans l'Ohio, une petite bourgade tranquille qui voit débarquer un jour Mia et sa fille Pearl. Elles sont afro-américaines et c'est important pour la suite. Alors on voit tout de suite surtout qu'elles ont un style de vie un peu différent de celui du voisinage très bon chic bon genre. Mia est une artiste bien plus bohème que bourgeoise. Et alors au début de la série, elle va louer une maison à une certaine Elena Richardson. Et Elena, c'est un peu l'exact opposé de Mia. Elle a 4 enfants, beaucoup d'argent et une vie bien rangée, tellement bien rangée d'ailleurs qu'elle a même un planning des jours pour faire l'amour avec son mari. C'est seulement le mercredi et le samedi.
Déjà, ça fait 2 jours et c'est un peu le choc des cultures.
Voilà, exactement. Mais comme Pearl va commencer à fréquenter les enfants Richardson, eh bien, leurs chemins se croisent et on s'aperçoit qu'elles ont au moins un point commun. Celui d'être une bonne mère, c'est franchement pas facile pour elles tous les jours. Elena, notamment, a beaucoup de mal avec l'une de ses filles.
Tu crois que ta fille t'aime?
Je n'y ai jamais pensé.
C'est parce qu'elle t'aime. Quand ta fille ne t'aime pas, tu y penses tout le temps. On prend la maternité pour acquise. On pense que nos enfants vont nous aimer toute leur vie, qu'ils vont nous aimer tout court. Quand ils sont petits, ils ont tellement besoin de toi. Ils s'accrochent à toi, tu peux les câliner. Ensuite, ils grandissent. Et tu réalises que ce n'est pas seulement eux qui avait besoin de toi. Tu avais aussi besoin d'eux.
Alors la maternité, et plus généralement la place des femmes au sein de la société, c'est vraiment le sujet au cœur de la série, mais c'est pas le seul, puisque Little Fires Everywhere s'attaque aussi au problème du racisme.
Et donc ça résonne avec l'actualité immédiate, avec les émeutes en ce moment aux États-Unis.
Oui, alors évidemment c'est une coïncidence, hein, mais c'est vraiment fascinant de regarder la série en ce moment. Il n'est pas question de violence policière, quoique, mais plutôt du racisme latent et d'à quel point votre couleur de peau peut déterminer toute votre vie. Il y a un moment dans la série, Elena va reprocher très violemment à Mia d'avoir fait les mauvais choix pour sa fille. Et écoutez ce que Mia, qui est donc noire et pauvre, lui rétorque.
You didn't make good choices. You had good choices. Options that being rich and white and entitled gave you.
Alors toi, tu n'as jamais fait les bons choix. Quand on est blanche, riche, gâtée, les bons choix, les bonnes options, on les a. Et Elena de répondre.
Again, that's the difference between you and me. I would never make this about race.
Ça, c'est la différence entre toi et moi. Moi, je ne ramène pas tout à la question de la couleur de la peau. Mais alors, ce que montre bien la série, c'est que ça, le fait de ne pas voir la couleur des gens, bah, c'est justement réservé aux personnes qui ne souffrent pas du racisme. Alors, autant Little Fires Everywhere est une série dans laquelle ça crie, ça pleure énormément, autant on a quand même des personnages qui n'ont rien de manichéen et une façon assez subtile d'aborder des questions de société très actuelles. Et c'est une série qui doit beaucoup à ces deux actrices principales qui sont aussi productrices, Reese Witherspoon et Kerry Washington. Ce sont deux féministes, elles adorent le format série et elles ont pris l'habitude comme ça de s'engager aussi dans le choix de leur rôle.
Merci beaucoup Margot Barallon, ça vous tente Sébastien Tellier?
Moyen. Non, je dis ça, c'est histoire de faire. Non, ouais, pourquoi pas, carrément. Ouais.
Mais vous avez Amazon Prime ou pas?
Non, je n'ai pas encore.
Et vous avez composé la musique d'une série américaine?
Ouais, A Girl is a Gun avec Denise Richard. C'est super.
Vous connaissez cette série? Margot, c'est quoi cette série?
Alors, J'ai regardé.
Moi, j'avoue, j'ignorais. Et j'ai demandé hier à Margot, est-ce que tu connais?
Donc, c'est l'histoire de 3 femmes, en fait, qui vont participer à une espèce de bootcamp pour apprendre à se battre et donc pouvoir se défendre contre une société misogyne et patriarcale.
Et là, attention, j'ai un effet générique. Je peux faire un
compliment.
Bah,
ça sonne comme un bon générique. On sent qu'il va se passer plein de trucs. Vous l'avez vu la série, Sébastien Tellier?
Oui, je l'ai regardé et tout.
C'est comment?
J'étais surexcité. C'est un petit peu série Z ou je sais pas quoi. C'est l'objectif, c'est ça. Il y a un petit peu. C'est comme si Tarantino avait pris un acide pour venir sur le tournage. Quoi.
Oh, disons, ça promet parce que déjà sans acide, Tarantino, c'est gratiné.
Bah, non, mais c'est un peu ça. C'est un peu foutraque et tout. Mais justement, c'est ça qui fait le charme de cette série, c'est qu'elle n'est pas réellement maîtrisée. Et c'est vraiment agréable de voir ça.
Et vous en gardez quel souvenir? C'est comment de travailler avec des Américains? C'est différent des Français ou non?
Non, c'est cool parce que c'était tout simplement le réalisateur de la série, c'est mon meilleur ami. Donc moi, j'ai jamais vu un Américain, mais ça aurait été avec plaisir hein, de travailler avec l'équipe et tout. Mais finalement, vu qu'on se connaît très bien, on n'a pas eu besoin de passer par des gens ou des agents ou des trucs comme ça. On s'est mis dans un studio à Paris. Et puis, on essayait des morceaux comme ça, en regardant les images. Ça s'est fait vraiment comme si on passait une soirée tous les deux.
Entre potes. Voilà. C'est quoi le nom de votre pote?
Mathieu Tonetti.
Lui, il s'appelle Sébastien Tellier. Reste avec nous, on a encore des questions et plein de musique à entendre. Merci encore, Margot Parallon.
Oui, la dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant sur Europe 1.
Heures, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la dernière partie de Culture Média et on est ravis de la passer avec notre invité Sébastien Tellier pour la sortie de son nouvel album Domesticated.
C'est un musicien très très pointu, Sébastien Tellier, vénéré dans le milieu mais également connu du grand public et le grand public français, même européen, même mondial. Vous avez découvert à l'Eurovision 2008 avec le morceau Divine, on écoute quelques notes. Alors vous arriviez sur scène en voiturette de golf avec des choristes qui étaient tout habillés en Sébastien Tellier avec des fausses barbes et des vraies lunettes. Ça se passait à Belgrade en Serbie. Vous étiez dans quel état ce soir-là?
J'ai eu assez peur. J'avais bien le trac et tout. Après, ce que je voulais faire, mon idée, c'était d'arriver avec la petite voiture de golf et de même pas chanter la chanson, de m'écraser, pas dans le public parce que ça a fait des blessés, mais vous voyez, et donc la catastrophe, toutes les télés du monde, oh là là, le mec s'est vautré, a même pas pu chanter. Et puis finalement, ils ont pas voulu, et j'ai pas respect, enfin, pas respect, mais je sais pas comment dire, mais je l'ai dit aux organisateurs, voilà, je voudrais cracher la voiture et tout, ils m'ont dit, ah, ça passera pas, ça va pas aller, et donc, bah, je l'ai pas fait, et voilà.
Vous avez révélé ça aux Inrock il y a 2 semaines. Comme l'alcool était interdit sur le site, je sortais jamais sans mes bouteilles de jus d'orange remplies de cognac. Et le jour de la cérémonie, racontez ce que vous avez fait.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, mais c'est vrai que j'avais, donc je chante la chanson avec un globe terrestre sous le bras, et c'est vrai que je l'avais gonflé à l'hélium, et pendant la chanson, à un moment, au milieu d'une petite pause, je prends l'hélium comme ça, et après je chante un petit peu comme ça, mais ça n'a pas été vu, et c'est dommage. Et aussi j'ai parlé, je pense peut-être dans la même interview, mais j'avais fait des concerts aussi avant, je m'accrochais des corbeaux au poignet pour vraiment que ça soit surstylé de faire mes parties synthé avec des corbeaux. Surexcité, pareil, pas trop remarqué. Donc
beaucoup moins joyeux, il y a eu beaucoup de disparitions récemment, certaines vous ont touché, notamment Tony Allen qu'on avait célébré ici, immense batteur, c'est l'inventeur de l'afrobeat et c'est lui qu'on entend sur votre tube, votre standard, la ritournelle. Et les gens qui se disent, tiens, Sébastien Tellier, il arrive en voiture de golf, il respire de l'hélium, il se met des corbeaux au poignet. Je dis juste, Sébastien Tellier, c'est le mec qui est capable de jouer ça et de composer ça. Et j'ai un peu la gorge serrée, ça s'est passé comment, la rencontre avec Tony Allen à la batterie?
Tony Allen, je suis dans une loge un jour et puis je dis à la cantonade comme ça que je cherche un batteur pour mon prochain album, je sais pas à qui faire ça. Et quelqu'un me dit dans la loge, mais tu sais que Tony Allen... il habite à la Défense. Oh, première réaction, mais qui habite à la Défense? Enfin, c'est super chelou. Et justement, lui, oui. Et donc ça s'est fait hyper facilement, mon agent a appelé son agent, on s'est rejoint dans un petit studio fin fond du 20e rue Volga je crois, et là je l'ai vu arriver, mais c'était merveilleux avec lui parce qu'il n'avait aucune exigence. C'est-à-dire avant c'est genre je veux telle batterie, telle année, tel type de peau accordé comme ceci, lui il a même pas demandé à ce qui je crois même qu'il est venu, il est venu avec ses baguettes seulement, ouais. Et il est rentré comme ça dans une transe où il écoutait ses accords tourner. Et moi, je le connaissais pas, je savais pas quelle personnalité il avait. Je voyais ce petit papy tout gentil, comme ça, cogité, profond, deep, le mec. Et à un moment, il fait, bon, bah, j'y vais. Il va dans la petite cabine, paf, il fait sa partie. Et là, c'est la chanson, elle est longue, elle doit faire 7,40, un truc du genre.
Ouais.
Et il fait tout d'un coup. Bam! Il fait tout d'un coup.
Une prise.
En une prise. Et il n'y a aucune édite ni rien. Il a joué ça la première fois et d'un seul coup.
Maintenant que vous connaissez cette histoire, on écoute 30 secondes de Larry Tournelle. Et là, malheureusement, je suis obligé de parler sur le moment où vous mettez à chanter, mais c'est juste dingue quand il passe sur les cymbales et vous au piano. Merci beaucoup, Sébastien Tellier, d'avoir été avec nous. Votre nouvel album, il s'appelle Domesticated, c'est chez Record Makers, je ne l'avais pas dit, et c'est La Cigale, le 21 octobre.
Ouais, c'est ça.
Et d'autres concerts partout, dans
plein
toute la
concerts,
France,
en France, en Europe et tout.
Merci, un grand merci d'avoir été avec nous, Sébastien Tellier.
Merci à vous.
Culture Média, c'est terminé. Je veux dire ce qu'il y a demain, ça sera à 9h, ça j'en suis certain. Nous serons avec Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Koh-Lanta, pour la grande finale de demain soir. Et puis l'écrivain Sophie Fontanelle, elle met en rime et en vers les travers et les impasses de nos vies sexuelles. Le mercredi, le samedi, comme disait Margot Barallon, ça s'appelle Les Fables de Sophie Fontanelle. Salut Céline Dacosta.
Salut Philippe Bordel, à demain.
Salut Sébastien Tellier.
Dans un instant, Andromanoff arrive avec toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Jean Lassalle et la youtubeuse Lola Dubini sur Europe 1.